7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins. Travaillons ensemble à la beauté des choses, comme dirait mon collègue Laurent Sadou qui présente Afrique Midi. Sauf que travailler ensemble dans une entreprise multiculturelle, ce n'est pas toujours une évidence. Et vous en savez quelque chose, les voisins et les voisines. Vous nous postez d'ailleurs des messages sur Facebook. Je pense à Abdoul qui nous dit « Moi, je suis à New York et qu'on le veuille ou pas, on est obligé de travailler avec des gens de nationalités différentes. C'est très enrichissant. Et en plus, il ne faut pas oublier que finalement, c'est grâce à la mondialisation que les 7 milliards de voisins discutent sur RFI LOL. » Voilà, terminé le témoignage d'Abdoul sur le fil Facebook. Ou encore Annie nous dit ceci, « La langue n'est pas un obstacle en soi et la cuisine un merveilleux outil de communication pour découvrir l'autre. » Tiens, ça se fait d'ailleurs dans les séminaires de management interculturel, non Philippe Pierre ?
Ah, ça se fait, oui. Je pense à une maison de retraite avec 12 nationalités en son sein. Et les dirigeants ont une formidable idée. Ils se sont dit, puisque on se connaît pas forcément, on vit côte à côte, on va partager plusieurs fois dans l'année autour des repas, et ce sont les équipes, certains résidents et certaines familles qui viennent apporter les plats donc de leur pays, et ça c'est un formidable lien entre les équipes, entre les personnes qui font tomber les différences culturelles,
ouais,
et on a
besoin. Échange sur la recette,
exactement,
etc. Vous nous appelez les voisins, les voisines, 33 84 22 71 71 et pour dialoguer avec vous, Philippe Pierre et Valdé Moutabazi, vous êtes tous les deux sociologues spécialistes de l'interculturel dans les entreprises. Et sage, celui qui apprend de tous les hommes et s'ouvre à toutes les différences. C'est ce que vous écrivez dans votre livre, c'est un vieux proverbe ça, Valdé ?
Très important, parce que dans l'idée qui est derrière, c'est que au lieu de chercher à imposer sa raison aux autres, vaut mieux apprendre des autres, justement, et de leur propre façon de raisonner.
Ouais.
De
au-delà des bons problèmes. Sentiments, tout voilà. N'est pas simple, quand même. Ah, rappelons-le.
Absolument. C'est pas simple.
Et nous accueillons Ibrahim, qui nous appelle de N'Djamena, au Tchad, et qui nous appelle au 33 84 22 71 71. Bonjour Ibrahim, bienvenue.
Bonjour Emmanuel, bonjour les voisins et les voisines.
Ibrahim, vous êtes ingénieur, je crois, eau et forêt, et vous êtes amené à travailler avec plusieurs nationalités chez vous au Tchad.
Oui.
Nous vous écoutons.
Effectivement, je crois que l'anglais est un atout pour travailler dans des entreprises internationales. Et puis, je vous donne l'exemple de mon pays. La quasi-totalité des entreprises sont des entreprises chinoises. Par exemple, les constructions des routes, des bâtiments ou bien l'exploitation du pétrole. Ma question est la suivante. De nos jours, est-ce qu'il n'est pas important d'apprendre le chinois que d'apprendre l'anglais pour travailler dans une entreprise multiculturelle, vu la présence de chinois, des entreprises chinoises en Afrique et surtout au Tchad?
Ouais,
c'est ça ma question.
Vous posez une question intéressante, hein, je pense qu'elle est partagée par pas mal de nos auditeurs sur le continent africain. Merci Ibrahim, N'Djamena au Tchad. Alors qui répond, Evald ?
J'aurais tendance à dire qu'effectivement les Chinois arrivent de plus en plus nombreux en Afrique. Pour autant, je n'irai pas aussi loin pour affirmer qu'il faut changer, laisser l'anglais ou le français au profit du chinois. Pourquoi ? Pour une simple raison que les entreprises américaines, les françaises, les européennes sont aussi très présentes. Et il me semble qu'on n'a pas à éliminer les langues que l'on connaissait avant au profit du chinois. Par ailleurs, ce que j'ai entendu dans différents pays en Afrique, puisque j'interviens souvent aussi là-bas comme consultant, c'est quand même que la Chine n'a pas encore acquis la connaissance et l'enracinement qu'avaient les anciens pays présents en Afrique, comme la France par exemple. Et que du coup, pour les gens, réapprendre encore une nouvelle langue, sans savoir ce que deviendra la coopération afro-chinoise, si je peux dire ça, n'est pas du tout évident.
Les Chinois se sont, ceci dit, massivement mis aux Français, à l'anglais sur le continent. Hein.
Ils sont très présents et ils nous invitent en fait à une dynamique non pas du « ou », mais du « et ».
Oui.
C'est-à-dire que si j'apprends le chinois et que d'une certaine manière, je cours peut-être le risque du mimétisme, je vais vouloir rentrer dans une logique qui n'est pas la mienne, mais qu'est-ce que je vais apporter à l'autre ? Ça, c'est la logique du « ou ». Et nous, avec Evald, on dit qu'il faut plutôt apprendre plusieurs langues. C'est être dans une logique du « et ». En fait, quelqu'un qui réussit, c'est quelqu'un en entreprise comme ailleurs, qui fait des ponts, des liens, des correspondances entre les mondes. Et les Chinois qui réussissent et qui réussissent longtemps sont, comme toutes les autres personnes sur Terre, des gens qui sont dans la médiation, c'est-à-dire en fait qui sont capables d'aller à la rencontre et d'aller à la rencontre de l'intelligence de l'autre, pour reprendre la belle formule de Michel Socquet,
absolument,
pour d'une certaine manière, se regarder eux-mêmes différemment. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous, Eval.
Très important, et en plus, encore une fois, on est au-delà de la langue. Oui. Pour moi, l'interculturel, la question qui nous intéresse, elle va beaucoup au-delà de la langue.
Alors d'ailleurs, interculturel ou multiculturel, c'est pas la même chose, il paraît.
Alors, là-dessus, pour nous, on a travaillé depuis longtemps là-dessus, le multi, ça se traduit par le côte à côte des groupes, des individus, ou même des filiales d'une même entreprise, et il suppose que finalement, il peut y avoir de l'indifférence, de la méconnaissance, l'un de l'autre. Le monoculturel, si ça existait, ça serait de chercher à uniformiser les comportements, à faire en sorte que tout le monde travaille de la même manière, pense de la même manière, et ça, c'est une utopie, ça ne s'est jamais produit. L'interculturel, en revanche, c'est vraiment mettre en place les interactions, les coopérations, qui permettent aux gens de se découvrir, de se connaître, d'apprendre les uns des autres, et c'est cette approche-là que nous défendons et que nous développons dans les entreprises.
Travailler dans une entreprise multiculturelle, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Nous accueillons une voisine à Accra, au Ghana. Bonjour Angela.
Bonjour.
Angela, vous êtes ghanéenne, vous parlez français, anglais, italien et puis bien sûr une langue locale chez vous, je présume.
Je ne sais pas parler vraiment la langue locale, mais je la comprends. On appelle ça le tui.
Ah ben c'est du propre, c'est votre famille qui doit être contente. Que faites-vous dans la vie et êtes-vous amenée à travailler à l'interculturel?
Ah ben je travaille en ligne en tant que journaliste. Et ce qui est vachement intéressant, c'est qu'on est lié par deux choses, l'internet et la langue anglaise. Moi je suis basée au Ghana, je travaille avec mon frère qui est aussi basé au Ghana. Notre patron, il est canadien d'origine portugaise. On a d'autres travailleurs qui sont américains d'origine du Bangladesh, des Pakistanais, de l'Inde. Donc c'est vraiment multiculturel. Et on a aussi bien sûr un latino qui maîtrise très bien l'anglais, même si sa première langue c'est l'espagnol. Alors ça fait partie du multiculturalisme, mais il y a bien quelque chose que je voudrais bien vous faire savoir. Mmh. Et c'est encore beaucoup plus intéressant que ce qui se passe à mon travail. À mon travail, bon, c'est pas vraiment différent puisqu'on parle tous anglais. Mais j'ai été acceptée à participer à un programme. Ça, c'était entre septembre et octobre l'année dernière. Et c'était vraiment intéressant parce qu'on était 17 journalistes de 14 pays différents. Et pas tout le monde ne parlait l'anglais. Alors, comment je pouvais m'y faire avec mes collègues qui étaient espagnols, portugaises, et puis il y en avait d'autres de l'Allemagne? Eh bien, soit on utilisait l'Internet par le biais de Google Translate, et on s'écrivait plutôt des mots et puis on neutralisait sur notre ordinateur. Ou soit on essayait vraiment de faire des efforts, on se parlait avec des gestes. C'était vraiment, vraiment très drôle et j'ai vraiment aimé ça.
Et culturellement, il y a des points de blocage, des points d'incompréhension, des malentendus parfois entre vous dans cette équipe incroyablement multiculturelle qui travaille en ligne?
Non, définitivement pas du tout. On comprend très bien les points culturels, par exemple chez nous. Les Indiens, ils partent en férié quand c'est l'heure de leur fête traditionnelle, qui n'ont rien à rapport avec Noël ou Pâques ou quoi que ce soit. Et puis, pas de problème, notre patron les donne congé. On respecte vraiment toutes les cultures et on apprend beaucoup de chaque culture. C'est vraiment intéressant de savoir ce qui se passe dans le pays de quelqu'un d'autre.
Et vous êtes vraiment de la génération Internet, non, Angela? Vous avez quel âge?
J'ai 22 ans, j'aurai 23 ans le 13 juin.
Ah bah c'est, voilà. Bien, c'est bien ce que je disais. Oui. Ça aussi, ça joue, Philippe-Pierre, la génération Internet, dans l'agilité interculturelle.
Bah oui, dans le témoignage qu'on vient d'avoir, le socle commun, c'est-à-dire que ce qui rassemble, de toute évidence, c'est la compréhension autour d'Internet, et puis ça serait l'anglais. Nous, avec Eval, on est sensible à l'idée de traduction. Attention, hein. On peut, à la limite, coopérer et produire ensemble autour d'une seule langue, mais on va un peu appauvrir les contenus. C'est-à-dire que ce qui peut être intéressant, c'est que chacun parle et développe une idée, travaille sur des concepts, mais dans la plénitude en fait de ces concepts. C'est-à-dire en fait, nous utilisons souvent des traducteurs pour ne pas courir le risque de quelque chose d'un peu appauvrissant.
Ah oui. Et de réduire le message que l'on veut faire passer aux autres.
Oui, ça serait l'idéal, mais chez vous, Angela, vous n'avez pas forcément des traducteurs sous la main, non?
Angela. Non, moi, j'en ai vraiment pas besoin, là, premièrement, parce que j'ai quand même un peu des qualifications. Quand il m'a mis à la traduction, ça dépend des langues. Et puis, bon, bien sûr, pas pour le hindi et tout ça, mais je veux dire, les vraies langues comme l'italien, l'espagnol, les plus grandes langues dans le monde, ça va, je peux m'y faire quand même avec.
Et puis, bien vous sûr, vous rendez compte de l'énormité que vous venez de dire, Angela, vous êtes drôle à Accra, parce que vous venez de dire une énormité des vraies langues comme l'anglais, l'italien, parce que le hindi, vous savez que c'est...
Le mot vrai, je voulais plutôt dire... Des grandes langues, voilà, les langues les plus parlées officiellement. Voilà.
Oui, alors le hindi, j'ai pas exactement le nombre de locuteurs de hindi, mais je crois que ça doit être aussi extrêmement important, nettement à mon avis plus important que l'allemand.
On est sur la question de la langue, justement.
Merci Angela pour votre témoignage, merci beaucoup. 22 ans, journaliste en ligne multiculturelle, interculturelle. Vous nous appelez les voisins, les voisines, travaillez dans une entreprise multiculturelle, 33 1 84 22 71 71, nous sommes en ligne avec une voisine qui nous appelle de Dakar. Oui.
Allô, bonjour.
Bonjour, quel est votre prénom ?
C'est Aminata.
Aminata, bienvenue Aminata chez les 7 milliards de voisins, nous vous écoutons.
En fait, moi je voulais contribuer juste en disant qu'il y a effectivement un choc culturel au niveau des entreprises multinationales, parce que moi je travaille dans une entreprise multinationale à Dakar, où il y a beaucoup d'expats belges et français. Et que ce que je voudrais dire, c'est parfois il y a des comportements qui choquent. Mmh. Par exemple, il y a une personne, c'est un de nos responsables, à chaque fois que tu rentres dans ton bureau pour t'entretenir avec lui ou pour dire quelque chose, il est debout, genre je suis très pressée, dépêche-toi. Et à force de le faire, ça choque un peu les autres, parce que attendre que quelqu'un, que la personne finisse de parler, ça fait partie des signes de respect. Et je pense que ce n'est même pas culturel, c'est un peu partout dans le monde. Des comportements comme ça, parfois en réunion, facilement, on utilise de gros mots. Donc ça, c'est un peu choquant aussi, je trouve. Et ça fait partie peut-être de la culture, peut-être qu'ailleurs, ce n'est pas aussi choquant que ça.
C'est extrêmement intéressant ce que vous soulignez, Aminata, parce que depuis le début de l'émission, on a tendance à dire que finalement tout est formidable dans le meilleur des mondes et que la réalité est quand même souvent tout autre. Hein. Merci pour ce témoignage et pour ces exemples qui vous choquent. Evald Moutabazi ?
Alors, je suis parfaitement d'accord pour dire qu'on peut se choquer. Ce que comment elle s'appelle, Aminata, décrit est tout à fait fréquent dans le cas de nombreuses entreprises en Afrique qui emploient des expatriés avec des locaux. En fait, je crois qu'une des solutions, c'est de donner aux uns et aux autres la possibilité de se connaître, peut-être de se préparer, qu'on ne voit pas un expatrié là-bas sans l'avoir prévenu, des différences de code, de comportement, ne fût-ce qu'au niveau de la salutation, par exemple. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. L'attitude corporelle, le regard, tout ça, ce sont des choses qui sont codées différemment.
Est-ce que, dans le fond, il ne faudrait pas se dire les uns les autres dès le début, nous sommes différents, nous allons nous choquer les uns les autres, mettons de côté, et est-ce que c'est possible finalement, Philippe Pierre ?
Je pense que c'est une question, comme le dit Eval, de préparation, mais c'est aussi une question d'humilité. On a un de nos amis, Michel Soquet, qui dit, il y a aucune barrière culturelle qui ne tombe si les personnes ne font pas preuve ou font preuve d'humilité. Mmh. Et donc, ce que vous mettez en avant, Emmanuel, c'est important, c'est l'idée, en fait, qui consiste à se casser les os de la tête. Dans un contexte multiculturel, on fait forcément face à des différences et elles ne sont pas forcément que culturelles. Mmh. Et se casser les os de la tête, c'est une logique de l'étonnement, c'est une logique du petit pas. Et quand Aminata évoque ce comportement autoritaire, directif, de quelqu'un qui lui passe un ordre, ça fait le pont avec l'auditrice précédente, la génération Internet. C'est que le temps où on assimile l'autre et on le transforme en chose, c'est un temps qui doit être révolu. D'abord pour une perspective idéale, morale, et puis pour une perspective pratique, Emmanuel. Mmh. C'est qu'on ne crée pas de la valeur en méconnaissant l'autre. Et ça, c'est un point qui nous rapproche fort avec Evald.
Alors, on va en reparler. Les entreprises, est-ce qu'elles se sont finalement qui se sont le plus internationalisées, se sont-elles transformées profondément dans leur façon de travailler? Comment? Qu'ont-elles gagné? Qu'ont-elles perdu? Vous nous appelez, les voisins et les voisines, au 33 1 84 22 71 71. On attend vos témoignages. On est en train d'essayer de rappeler José, qui est sur une base pétrolière en Angola. On se retrouve tout de suite.
7 milliards de voisins, c'est sur RFI.
And mama say, welcome to life, darling.
Good, better, best. Alors, elle, c'est une vraie voisine, 7 milliards de voisins. Père ghanéen, mère allemande, grandit au Ghana, au Cameroun, au Togo, au Tchad, et elle vit entre Hambourg et Paris. Voilà. Hein, sympa, cette chanson.
Ah, très
oui,
sympa.
Hein. Excellent.
On accueille un voisin qui nous appelle d'Angola au 33 1 84 22 71 71. Bienvenue, José. Vous êtes sur une base pétrolière à Soyo.
Exactement. Exactement.
Nous vous écoutons.
Oui, en fait, je suivais le programme pas mal au milieu. Je n'ai pas commencé, mais en ce que j'ai compris, c'est que travailler avec les expats, c'est pas vraiment un grand problème. En fait, c'est simple. C'est juste quelque chose d'être humble, quelque chose d'une éducation de base. Comme je suivais l'un de vous qui est en ligne et qui disait que non, ça demande juste d'être humble, de reconnaître la personnalité et la fonction, le fonction de l'autre. Mmh. En fait, moi, je travaille avec les Français, je travaille avec les Américains, je travaille avec les Bulgares. En fait, tout est simple, tout est normal, comme un noir. Il y a une différence de couleur, oui, mais il n'y a pas une différence de comportement, il n'y a pas une différence de la proactivité au sein du travail.
Ouais. Mais vous-même, José, vous êtes angolais?
Oui, je suis anglais d'origine.
Et donc vous, au quotidien, à partir du moment où on est tolérant face aux erreurs des autres, aux erreurs culturelles des autres, à la méconnaissance, à partir du moment où on est tolérant, finalement tout se passe bien. C'est votre point de vue.
Oui, c'est mon point de vue. En fait, les gens, on n'en manque toujours pas. Et nous devons nous habituer. Nous ne pouvons pas vouloir que la personne soit comme nous, n'est-ce pas? Nous devons apprendre à vivre avec la personne comme elle est.
Alors, je vous livre un commentaire sur Facebook qui vient de tomber, de d'Issa, je ne sais pas de quel pays il écrit. Il nous dit, le grand problème, quand des gens de cultures différentes travaillent ensemble, c'est que chacun croit que sa culture est meilleure que celle de l'autre et que du coup, ça rend la collaboration difficile. Vous n'avez pas ce sentiment-là sur cette base pétrolière où vous travaillez en Angola?
Ben, c'est là, ça peut se sentir un peu, ça peut se sentir un peu, mais... Tout le monde veut tirer les cordes, la corde de son côté, n'est-ce pas? C'est juste reconnaître de la façon que vous direz la vôtre, c'est la même façon que l'autre veut en tirer. Alors, il est juste question de respecter l'opinion de chacun.
Ça, merci. Opinion, en fait. Merci pour ce témoignage, José, en Angola. Travailler dans une entreprise multiculturelle, bah oui, on sait que les grandes multinationales pétrolières, alors là, ce sont de bons exemples, hein, et surtout quand on travaille sur une base pétrolière, là on n'a pas le choix. Il faut apprendre à se côtoyer, à vivre ensemble, Evald Moutabazi.
L'expérience qui me vient à l'esprit en écoutant cet interlocuteur, c'est Total. Total qui fait du pétrole aussi depuis très longtemps en Afrique, et qui, depuis longtemps aussi, a compris la nécessité, justement, de permettre à ces différents cadres ou ingénieurs à se connaître, hein, et surtout en mettant en place une mobilité internationale. Donc ils sont amenés à travailler en dehors de chez eux et du coup amenés à relativiser leurs habitudes peut-être probablement aussi à apprendre à respecter les différences des autres. Et à un certain niveau, effectivement, il peut y avoir compréhension aisée parce que les gens ont vécu l'expérience.
Quand vous travaillez sur une base pétrolière, ce qui vous rapproche surtout, c'est la compétence technique. Mm-hmm. C'est-à-dire que si vous partagez le métier et puis les tours de main, les bonnes pratiques, vous allez accéder à la rencontre culturelle de l'autre. C'est le métier qui vous amène à connaître l'autre dans ses différences. Des entreprises comme Total, les grosses entreprises pétrolières, multinationales, elles ont aussi un autre enjeu, c'est les familles. C'est comment on accompagne l'expatriation et comment les familles vont partager le projet, le choc du retour, des enjeux en fait qui
comment
sont là.
Comment on accueille aussi l'expatrié
comment
quand
on
il arrive.
Tu as raison, comment on accueille l'expatrié et sa famille. Et puis même la question aussi de la culpabilité par rapport aux personnes qu'on quitte dans un pays. C'est des éléments culturels à prendre en compte. Les parents, les grands-parents qu'on risque de ne plus voir. Et donc dans le témoignage qu'on vient d'avoir sur cette base pétrolière, c'est évidemment la compétence technique qui va favoriser ce socle commun. Et les choses sont intéressantes parce que complexes, c'est qu'on part pas seul, et on communique de plus en plus aussi, Emmanuel et Val, c'est un point important, à distance. Oui. C'est que sur une base pétrolière, bah, vous rencontrez l'autre en ses différences parce que vous pouvez le toucher, vous pouvez ajuster les comportements. Mais aujourd'hui, les entreprises dans la mondialisation, elles sont de plus en plus amenées à se poser la question, comment je crée de la confiance avec des gens que je vois peu ou pas?
Oui, par exemple, un Airbus aujourd'hui, il est construit avec combien d'ingénieurs, de techniciens de nationalité, de combien de nationalités, dans combien de pays, avec les logiciels qui permettent le coworking.
Exactement.
Comme on dit. Alors,
vous aurez une quarantaine de aurez une quarantaine de nationalités, vous aurez des flux physiques, des flux
d'informations,
mais qui nécessitent en fait qu'à un moment donné, et ça c'est un enjeu fort de l'interculturel, on se rencontre. C'est-à-dire en fait que l'on vive côte à côte, qu'on se regarde, qu'on échange
ensemble.
Attention au mythe qui consisterait à considérer que le travail à distance est faisable sans même qu'il y ait de la présence physique. Et ça, c'est une dimension importante, Eval.
Oui, exactement. Dans certaines cultures, dans certains pays, c'est important de voir l'autre, hein, de le voir à côté de soi, face à soi, et même de le toucher. On l'a vu tout à l'heure. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est qu'effectivement, là, la culture de métier, cette mentalité liée à la profession qu'on exerce, si on y ajoute un projet bien défini, quel est personnes ont à suivre, ça va leur permettre de bien se comprendre beaucoup plus aisément. Pour autant, on n'a pas forcément résolu tous les problèmes qu'on observe dans les entreprises. Par exemple, la question de l'autorité qui a été évoquée tout à l'heure au Sénégal, mais c'est aussi la question du style de management qu'on va développer, qui peut être plus ou moins approprié selon le cas. Dans un projet, évidemment, les gens vont avoir tendance à converger leurs efforts.
Je me souviens d'une expérience commune avec Evald. On formait des cadres du pétrole, donc on est vraiment au cœur là de l'intervention de notre voisin. Pendant la journée, ils étaient pantalon sombre, costume cravate, et ils respectaient notre conception du temps et supposément de l'autorité. Et puis on avait la chance de manger avec eux le soir. Et là, il arrivait en fait que des personnes africaines se changent et viennent en costume traditionnel, Emmanuel.
Bah
là, on touche.
Qu'est-ce que ça a changé finalement ?
Ça change tout. Ça change tout. L'expérience interculturelle, c'est l'expérience de l'authenticité. Et nos voisins, nos voisines dans les témoignages sont des arlequins aujourd'hui, attention.
Et l'expérience suppose aussi qu'on soit capable de se révéler à l'autre, de montrer qui on est
et
par rapport à l'autre.
Donc passer d'un registre à l'autre en même temps, il faut cette agilité-là.
Ah, cette souplesse, cette capacité à relativiser les choses, à se dire que si on avait la cravate le matin, on peut y aller en boubou le soir et être le même.
Mais est-ce que l'entreprise n'a pas tendance, pour être plus efficace, pour produire plus de business, à finalement à uniformiser, notamment avec les outils de l'informatique, du droit international, du marketing, de la comptabilité, etc. Tout ça sont...
Emmanuel, ça c'est la tendance, c'est la plus générale que l'on connaisse dans les entreprises, effectivement, qui ont essayé d'abord à uniformiser les comportements et les attitudes. Alors on les citera pas, pour ne pas leur faire la contre-publicité, mais il y en a eu plusieurs qui ont essayé justement
vous
de mettre en
place... Vous pensez à quoi ? Des multinationales américaines ?
Américaines ou même européennes, bien sûr. Hein. Culture unique partagée par tous. Mais en fait, c'était une utopie, Philippe, on l'a vu plusieurs fois, cette approche n'a jamais réellement marché.
Mais paradoxalement, les grandes entreprises américaines, ce sont celles qui ont le plus de melting pot, hein, puisque la majorité des doctorants aux États-Unis ne sont pas américains, et en même temps, elles parviennent à absorber cette diversité culturelle au nom de l'efficacité, avec des codes finalement très américains, non, Philippe Pierre ?
Là, vous insistez, oui, sur un point, c'est qu'on peut créer de la valeur en ne se connaissant pas forcément toujours sur le plan culturel. C'est-à-dire qu'en fait, on peut vivre côte à côte, On peut éventuellement ne pas connaître son voisin de couloir. Hein, on est vraiment
on
dans
est
le
dans
thème.
Multi, là.
Et là, on est dans le multi.
Dans le multiculturel.
Le multiculturel, c'est quand vous créez de la valeur sans connaître vraiment l'autre en ses différences. Mais la personne qui
donc
vient...
Pour vous, c'est pas bien, ça.
C'est pas
c'est
ce qu'on
limité.
Souhaite.
C'est pas que c'est pas bien, mais c'est limité.
C'est limité. Ouais. C'est limité parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qui...
Ce qui est important aujourd'hui, c'est justement de pouvoir s'appuyer sur les différences pour créer de la valeur, créer de l'innovation à partir de l'échange d'idées et de la compréhension des idées des autres.
Et ça nécessite, comme le disait notre Nilan, ça nécessite du temps de rencontre, du temps long. Et ça nécessite surtout pas d'imposer un modèle unique. D'ailleurs, la mondialisation, on en parle beaucoup, c'est pas une vague uniforme, la mondialisation. Il y a des effets de ressac permanents. Plus on se rapproche de quelqu'un, on veut imposer un modèle...
Et plus il résiste.
Mmh, mmh. C'est-à-dire qu'en fait, nous, notre discipline du management interculturel, c'est une discipline d'avenir en cela, c'est que tout acte de gestion est situé sur un plan culturel et doit nous inviter à l'humilité, à l'étonnement et au temps long.
Et même en marketing, quand on parle de customisation, c'est quoi?
Particulièrement.
C'est la prise en compte, justement, des spécificités locales en termes de goût, en termes de management, qui permet aux entreprises de gagner dans la durée.
Evald Boutabazi et Philippe Pierre, vous avez publié ensemble, j'insiste sur le ensemble, pour un management interculturel, de la diversité à la reconnaissance en entreprise. C'est paru aux éditions L'Harmattan. Merci à vous tous, les voisins et les voisines, pour vos témoignages. Il y a encore beaucoup de témoignages qui arrivent, que j'ai pas eu le temps de lire, malheureusement. Mais en tout cas, merci à vous. Pour réécouter toutes nos émissions RFI.fr, à la rubrique émissions et ensuite à la page 7 milliards de voisins. Demain, 7 milliards de voisins. Alors là, comme chaque vendredi, un sujet éducation. Je recevrai Gabi Cohn-Bendit, probablement plus connu dans certains pays d'Afrique que son petit frère, l'eurodéputé Daniel Cohn-Bendit. Gabi Cohn-Bendit a dédié une grande partie de son parcours d'enseignant à l'école en Afrique. Et il est passé, je dirais, dans le camp des vieux sages. Il nous racontera ses credos pour une école plus proche des populations sur le continent. Vous pourrez l'appeler et dialoguer avec lui au 33 1 84 22 71 71.